Radio Barque numéro 6 de cette saison, troisième partie, avec, comme nous l'annoncions tout à l'heure, Chantal Alibert. Alors bonjour, rebonjour, vous nous avez salué. Vous êtes historienne narbonnaise et vous avez sorti, enfin, ou réédité ou rénové, vous allez nous dire tout ça, très récemment, un gros livre qui s'appelle « Narbonne, regard d'hier et aujourd'hui », abondamment illustré, sur l'histoire de la ville. Mais auparavant, peut-être, vous êtes, si je puis dire, une ch'ti venue à Narbonne. Expliquez-nous comment vous êtes venue sur nos terres narbonnaises depuis le Grand Nord français.
Les Hauts-de-France.
Les Hauts-de-France. Comment êtes-vous venue des Hauts-de-France, Chantal Alibert, à Narbonne?
Donc, je suis venue il y a déjà bien longtemps, en 1979, à l'occasion d'un stage archéologique au Clos de la Lombarde. Parce que bon, tous les ans, en parallèle avec mes études, par passion, parce que j'ai suivi des études d'histoire de l'art en même temps que mes études d'histoire, je faisais un chantier de restauration. Et cette année-là, j'avais choisi le romain, l'époque romaine, et je suis arrivée donc à Narbonne. Et je n'ai pu quitter la ville. 6 mois après, bon, j'étais installée, mariée, et très contente d'ailleurs depuis de vivre dans ce cadre formidable, que je ne connaissais pas et que j'ai appris à apprécier et que maintenant, hein, j'essaie de défendre.
Alors, il y a plus de 30 ans, vous avez été attirée dans notre ville par la splendeur romaine passée de cette cité.
Exactement, c'est tout ce que je savais d'ailleurs. J'ignorais vraiment d'une manière assez incroyable, parce que j'avais fait des études essentiellement de médiéval, j'ignorais le riche patrimoine médiéval de la ville. Il était totalement inconnu et à Lille, on ne m'avait jamais parlé de Saint-Just.
D'ailleurs, est-ce qu'on en parle assez? On y reviendra peut-être, on sollicitera votre avis là-dessus. Voilà, et à partir de là, donc, vous avez ensuite fait carrière de professeur d'histoire à Narbonne, bien entendu.
Dans la région, avant d'avoir bien sûr un poste fixe après au lycée Lacroix. Et j'ai consacré ensuite, donc après avoir passé la grègue, j'ai consacré pas mal de temps à une thèse, justement sur l'histoire patrimoniale de la ville. Parce que puisque je ne comprenais pas pourquoi ce patrimoine n'était pas connu, j'essayais de chercher à comprendre d'une manière peut-être un peu scientifique pourquoi justement il y avait cette inconnue et pourquoi on n'avait pas vraiment parlé de la richesse de Narbonne lorsque je faisais mes études d'histoire de l'art.
Alors ce qui vous a amené à sortir un premier livre il y a de cela pas mal d'années.
Voilà, en 2005, j'ai fait une première mouture de Narbonne, regard d'hier et d'aujourd'hui, qui, en fait, rassemblait beaucoup de choses parce que j'avais fondé les services éducatifs de la ville et je voulais que tous ces essais, tout ce que j'avais recherché pour enseigner aux élèves l'histoire patrimoniale puisse servir à d'autres. Donc, ce livre était un peu le résumé de toutes les démarches que j'avais faites au fil des années dans ma carrière d'enseignant.
Et alors, ce livre, à un moment, vous sentez le besoin de le rénover, de faire une
mise à
jour?
Tout à fait, parce qu'il était épuisé, mon éditeur étant en liquidation judiciaire, il était épuisé, et un libraire de Narbonne, c'est le libraire de Libellis, pour le citer, puisque je dois lui rendre hommage, m'a dit qu'il faut absolument faire une nouvelle mouture. Donc j'ai contacté un nouvel éditeur qui a tout de suite donné son accord, et nous avons donc, avec mon mari, parce que je tiens à dire quand même qu'il m'a beaucoup aidé, Daniel Alibert, nous avons refait donc une nouvelle mouture du livre, avec une nouvelle iconographie, une nouvelle cartographie. On a incorporé dans ce livre donc les chapitres concernant les fouilles des ports de Narbonne, le futur Muréna et l'aménagement des barques. Et puis, bien sûr, ce que, depuis 2005, on savait en plus sur les monuments existants.
Voilà. Alors, Chantal Alibert, lorsqu'on décide de refaire un bouquin comme ça, qui est quand même un monument, il faut le voir, comment ça se passe? Ça prend combien de temps? Ça prend d'abord déjà
beaucoup de temps.
Oui.
beaucoup de temps. D'abord parce que, bon, on a fait beaucoup de photos nous-mêmes. On a demandé à des amis qui nous ont aidés aussi. Et aussi, il faut dire aussi qu'on a eu un accueil particulièrement très intéressant, je pense, de l'équipe, par exemple, de Corinne Sanchez.
Archéologue,
qui est la responsable donc des fouilles des ports, qui nous a prêté des documents. On a revu avec elle ce qu'il fallait dire parce qu'il fallait faire une synthèse. L'équipe aussi, par exemple, qui fouille à Gruissant a été particulièrement agréable. Nous avons aussi collaboré avec Ambroise Lassagne et Caroline Papin pour le futur Murena. Donc, je dois dire
qui
que
sont c'est, des conservateurs.
Qui sont les conservateurs du futur musée. Je dois dire que c'est pas un livre qu'on écrit seul. On l'écrit avec les recherches des archéologues, des historiens qui nous ont précédés et avec toute l'équipe actuelle. Et c'est pour ça que ce livre existe, parce que évidemment, il faut faire la somme de tout ce savoir en sachant que ce n'est pas définitif et que dans quelques temps, peut-être il faudra réactualiser ou même corriger. C'est ça l'histoire du patrimoine. C'est vivant.
Alors justement, vous parlez de revoir, revisiter un certain nombre de choses. 2005-2016, ça fait quoi, 11 ans ? 11 ans après, est-ce que vous avez un regard, pour reprendre votre titre, assez différent de celui que vous aviez précédemment, grâce peut-être à des découvertes entre-temps ?
Oui, on en sait plus. Mais en fait, le regard, c'est dans le sens, quand on utilise le mot « voir », on pense, par exemple, quand on leur dit à un interlocuteur « je vois », ça veut dire « je comprends ». Donc le regard, c'est comprendre. Alors c'est sûr qu'on comprend et on sait de plus en plus de choses sur les objets ou sur les monuments. Parce qu'il faut bien savoir qu'un monument ou un objet patrimonial n'a pas de valeur en soi. On n'a de valeur que si on le regarde d'une certaine façon. C'est nous qui mettons du sens. Et ce sens évolue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir bien sûr comment il a évolué et comment il est aujourd'hui, mais comment il était aussi au 19e, beaucoup plus sélectif. Parce que ce patrimoine, justement, il intéresse la société qui le possède, par exemple aujourd'hui, mais il doit intéresser aussi les générations suivantes. Il faut le léguer. Il faut savoir pourquoi on le lègue. Et pourquoi on décide que telle ou telle chose peut devenir un bien patrimonial dans l'avenir.
Alors une petite parenthèse là-dessus justement. Si on reprend par exemple l'origine un petit peu des musées Narbonnais, Paul Tournal, et l'époque contemporaine, quelle différence de regard y voyez-vous, si je puis dire ?
La différence de regard, c'est on a un public peut-être plus averti. À l'époque de Tournal, on voyait aussi, on s'intéressait beaucoup à la pédagogie du dessin. Par exemple, les peintures servaient de modèle aux futurs artistes. Aujourd'hui, on a un public beaucoup plus varié. Ça va bien sûr des scolaires jusqu'à les groupes du troisième âge, j'en fais partie, donc je peux dire cela. Et en fait, donc, il faut que ce patrimoine intéresse des couches très variées de la population. Alors, on se rend compte justement dans cette histoire patrimoniale que c'est un bien commun, qu'il doit être commun à tous. Et en voyant donc cette variété dans les publics, on se rend compte aussi que le patrimoine, justement, c'est un lien. Et que c'est peut-être aussi au niveau de la politique culturelle la plus démocratique. Parce qu'elle s'adresse à tous.
Michel Santon, une remarque ?
Oui, le très juste remarque de Mme Alibert. Le patrimoine est un lien avec le passé, donc avec tout ce qui nous a été légué par l'histoire, en fait, et qui doit être approprié par les nouveaux arrivants, les nouveaux habitants d'une cité. Mais c'est aussi une ressource économique.
Tout à fait.
C'est aussi une ressource économique. Et moi, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, après vous avoir lu dans d'autres revues, en fait, que le livre que vous venez de sortir, moi, ce qui m'a frappé en vous lisant à ce moment-là, c'est de constater que pendant très longtemps, pour ne pas dire toujours, le patrimoine n'avait jamais été considéré par les édiles locaux, municipaux, comme une véritable ressource économique qui devait effectivement générer, produire de la richesse.
Et aujourd'hui,
mon sentiment, c'est que c'est encore toujours le cas. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que nos élites politiques aient bien pris la mesure de ce que représentait effectivement ce patrimoine comme richesse économique.
Et quel est votre sentiment là-dessus,
Alors,
Chantal Alibert ?
C'est peut-être vrai. C'est pour ça que je crois que le point de départ, ça doit être la prise de conscience de la population. Je me souviens d'une anecdote concernant la découverte de la voie domitienne en 97, c'est un peu vieux. Je pense qu'au départ, il était question de ne pas la conserver. On voulait simplement l'enfouir. Et puis, bon, les gens se sont déplacés. Il y a eu vraiment une foule qui est venue regarder ce chantier de fouilles. Et je me souviens d'un de mes élèves qui disait, et puis cette phrase a été reprise, « On va aller marcher sur les pas des Romains ». C'est-à-dire que ces pauvres pavés avaient pris du sens. Mmh. Et à partir du moment où les choses prennent du sens pour l'ensemble d'une population, les élites suivent. Et l'histoire du patrimoine de Narbonne, elle commence au 19e. Elle est peut-être un peu difficile, justement, au 19e. Il y a des rendez-vous manqués. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Je crois que les élites suivent si la population suit. C'est pour ça que j'écris ce livre. Sinon, bon, ça n'avait pas de sens non plus. Il faut d'abord faire connaître. Et ensuite, je crois que la prise de conscience arrivera aussi au niveau municipal. Bon, il y a quelque chose de très simple aussi au niveau... Par exemple, de la prise de conscience de la valeur d'un monument, je prends l'exemple du palais des archevêques. Pendant très longtemps, puisque je suis à Narbonne quand même depuis pas mal d'années, on voyait sur les prospectus que des spectacles se passaient à l'hôtel de ville. Bon, l'hôtel de ville n'a pas de valeur patrimoniale. À partir du moment où on remplace le mot hôtel de ville par palais des archevêques, on met une valeur patrimoniale au lieu où les gens vont écouter un concert ou assister à une manifestation.
Oui,
les choses changent, c'est tout.
Oui, on est là, dans la communication au bon sens du terme.
Au bon sens du terme.
L'art de bien présenter les choses.
Voilà.
Tous les enjeux, toutes les ambiguïtés politiques qui tournent autour, ne serait-ce que des mots. Dire pour un maire, dire la réunion du conseil municipal se fera pas des archevêques, sémantiquement, c'est quelque chose de très lourd et de très fort, effectivement.
Oui, sans
parce qu'effectivement, ça connote toute une série d'enjeux idéologiques et politiques qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas neutres.
Non. Oui.
Et donc effectivement. Toutes les contradictions.
Il y a un habillage, habillage qui est différent.
Le lieu a du sens.
Oui. Bon, faut pas quand même que les gens concluent que les conseillers municipaux sont des archevêques et que les conseils sont des synodes.
Non, mais le palais des archevêques a été préservé, il n'est pas devenu une caserne, justement pour en faire une mairie. Parce que on a voulu donner un lieu prestigieux à la mairie. Parce qu'on sentait que la mairie était le point le plus important d'une ville.
Une provocation peut-être intellectuelle et politique. Mais après tout, est-ce que allons jusqu'au bout de la logique de la mise en valeur et de la sauvegarde de ce patrimoine historique de cœur de ville. Comment se fait-il que jamais l'idée n'est germée, peut-être que je me trompe, de transférer tous les services municipaux en dehors effectivement du palais d'archevêque.
Si c'était je crois, l'objectif de la municipalité précédente.
Exactement.
Oui. Le précédent intervenant, Thierry Pfister, avait eu cette idée-là, on en avait parlé il y a quelques années. Mais revenons sur le sujet aujourd'hui. Chantal Alibert, alors une gageure, s'il fallait en quelques mots résumer l'histoire de Narbonne, quelqu'un qui débarque et qui connaît pas du tout, entre Rome et le côté médiéval, justement, et ce palais des archevêques.
C'est très difficile parce que justement, on a une riche histoire, donc on a une richesse patrimoniale. On pourrait dire simplement que les temps forts l'histoire de Narbonne se lisent dans l'espace urbain, ils se lisent en coupe. L'histoire de Narbonne, c'est une pile d'assiettes. Et chaque époque a donné des éléments très très intéressants. Donc,
dont certains
Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir entre le romain, le 19e ou l'époque médiévale.
Oui, sauf qu'il y a des choses qui se voient, qui sont évidentes, comme le palais des archevêques, alors que pour le romain à Narbonne, c'est beaucoup moins évident, ce qu'il en reste.
Bah, il y a d'autres aussi.
C'est pour ça. C'est ce qui explique que, comme le 19e siècle a mis l'accent sur le grand monument, ce qui comptait au 19e siècle, c'est de sauver justement ces grands vestiges. On mettait le projecteur sur eux. Donc évidemment, Narbonne a détruit ses remparts à ce moment-là avec cette magnifique frise des pierres romaines. Mais en sachant que ça a permis de les conserver, parce que c'était quand même pas une destruction comme cela en l'air. Et Paul Tournail, d'ailleurs, c'est l'occasion de lui rendre hommage, voulait préserver les portes et certaines parties de l'enceinte. C'est la municipalité qui a profité ensuite, déjà, à l'époque, en 1872, il meurt, et la municipalité profite de son décès pour tout démolir.
Ça, c'est lâche.
Voilà.
D'autant plus que beaucoup de villes, y compris Paris, ont conservé des portes.
Voilà.
Un exemple de ce que je disais précédemment, à savoir que, bon, pendant toute une partie de son histoire, les édiles locaux se sont foutus éperdument, effectivement, de la valorisation du patrimoine local.
En voilà un bel exemple, oui, effectivement.
Oui.
Oui. Bon, effectivement, résumer l'histoire de Narbonne en quelques mots, je le disais bien, Chantal Alibert, c'était une gageure, je m'attendais
je
pas.
Je ne peux pas.
Alors, l'histoire, c'est le passé, mais vous le faites remarquer, c'est aussi le présent et l'avenir. Et l'avenir, justement, pour la romanité à Narbonne, c'est ce fameux musée. Quel regard y portez-vous et quel est votre rôle dans ce musée?
Oui, tout à fait. Donc, le musée, moi, j'ai un regard très, très, très optimiste. Hein, parce que il est conçu dans l'optique de liaison avec d'autres musées, en particulier celui de Nîmes. Hein, on a eu dernièrement donc la conservatrice de Nîmes qui est venue présenter donc son projet. Et je pense qu'on est aujourd'hui à une époque où on ne va pas choisir une ville ou une autre. Hein, on fait des parcours. Et en particulier, bon, j'imagine très bien un parcours romain entre Nîmes, Arles, Narbonne, tout est complémentaire. On n'a pas, bien sûr, un amphithéâtre, on n'a pas la Maison Carrée, mais ici, on a une richesse fabuleuse avec ses pierres, et puis surtout, les fameuses fresques du Clos d'Alombard et le centre d'études. Si le musée est véritablement un centre d'études, il va être une pépinière pour beaucoup d'étudiants. Et donc, on aura une autre façon peut-être de mettre en valeur nos richesses complémentaires. Il faut jamais exclure, il faut au contraire voir tout cela comme un ensemble cohérent.
Oui, mais là, on retombe dans le pouvoir des politiques, c'est-à-dire ceux qui gèrent et qui ont le pouvoir financier d'instaurer ces liens et ces passerelles auxquelles vous faites allusion, Chantal Alibert.
Recherche bon, à Murena, ça suppose effectivement trouver un laboratoire d'université qui veuille se déplacer, ouais. Ou tout simplement investir dans ce genre de.
C'est prévu, et c'est prévu une liaison entre la recherche et le public. Le public pourrait assister à certaines. Enfin, on lui expliquerait certaines recherches, et ça, c'est fondamental, parce que si on explique au public le pourquoi du financement de la recherche, je pense qu'il peut adhérer et y participer.
Et ces fameuses passerelles, ces liens, vous sentez qu'ils se mettent en place?
En tout cas, l'équipe qui met en place le musée le veut.
Oui.
Les conservateurs sont dynamiques, sont jeunes, voilà. Pleins d'idées, et il faut les soutenir.
Ça, c'est leur souhait, mais j'en reviens au pouvoir des politiques, ceux qui décident des budgets, notamment.
Peut-être, justement, c'est là où la pression de la population doit...
Donc voilà,
agir,
il faut
j'espère.
Revenir au syndrome de la voix domitienne, c'est la population qui
voilà,
fait pression.
Vous savez, je pense aussi, bon, chacun, nous avons notre passé, mais le passé de Narbonne, il est commun à tous. Donc quand on en prend possession, il faut le défendre, parce que c'est absolument rassembleur. Il n'y a pas d'étiquette politique au patrimoine. C'est peut-être justement ce qui fait toute sa valeur.
Oui, il ne devrait pas y en avoir, Michel.
Oui, il y a un exemple. Hein, le schéma que vient de décrire Chantal Hibert me fait penser au schéma qui était celui d'Henri de Lemelé fait à toute Avelle. Un os, des os. Puis très rapidement, et maintenant, c'est devenu non seulement un musée, mais c'est devenu un laboratoire de recherche qui est accolé à Perpignan. Je ne parle pas de ça, quand je m'occupais de la recherche et de transférer la technologie à la région, j'ai suivi attentivement. Mais ça suppose une volonté politique et des budgets considérables.
Ouais, encore, ouais, et c'est là où peut-être
le pari est risqué, mais il mérite de l'être, me semble-t-il.
De toute façon, si on n'y croit pas, on ne le fait pas.
Oui. Alors, un tout dernier mot, Chantal Alibert. Donc, ce musée de la romanité, pour vous, suscite bien des espoirs. Et sa conception vous paraît intéressante?
Oui. Si elle est menée à bien, elle est intéressante. Tout à fait. Parce qu'il faut un musée moderne avec des nouvelles façons de présenter, une nouvelle scénographie. On est à l'époque de la 3D. On n'a qu'à voir l'engouement des documentaires actuellement où on a des restitutions en 3D. Ça donne à voir. On revient toujours au niveau du regard. Quand on ne sait pas beaucoup de choses, quand on remonte, on montre à quelqu'un une restitution virtuelle, on comprend tout de suite. Et ça, c'est essentiel.
Voilà.
Et le musée, théoriquement, devrait avoir tous ces nouveaux outils.
Devrait avoir la capacité de resituer ces pierres isolées dans un contexte.
Exactement. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est une question de rêve. On ne reconstitue jamais la réalité historique. On rêve d'une histoire. Et c'est le rêve qui est quand même le plus important, peut-être, dans notre aventure patrimoniale.
Voilà. Donc, finalement, l'histoire, le passé, ça se crée au présent, si je puis dire.
Il est créé au présent. De toute façon, c'est votre regard qui le crée.
Et avec beaucoup d'imagination.
Merci Chantal Alibert, donc, pour ce témoignage sur votre livre Narbonne, regard d'hier et d'aujourd'hui, et d'être venu témoigner sur ce lourd et grand travail. La prochaine fois, nous reviendrons à un petit peu nos habitudes avec un politique. Il s'agit de Alain Perea, qui est à la fois maire de Villedaigne, un des vice-présidents de l'agglomération, président du PNR, mais aussi qui est en train de s'engager, politiquement. Et oui. Il nous expliquera tout ça en détail. En tout cas, on lui posera cette question.
Évidemment.